Le titre de l'étude, c'est les stations du peuple après leur sortie d'Égypte. Ça fait drôle de dire le titre parce que ça va juste à la prochaine que je vais commencer ça. Le but de l'étude, mais c'est de démontrer que tout vient de Dieu. Donc, que Dieu est au contrôle pour tout ce qui touche l'homme naturel, ce qui touche le peuple d'Israël, ce qui touche nous comme enfants de Dieu. Aujourd'hui, donc, que toute puissance, toute intelligence et tout pouvoir appartient à Dieu.
Amen.
Ce que je veux faire, c'est de partir du jour où Dieu en fait sortir son peuple de l'Égypte. Ça va nous ramener à nous, immanquablement. Puis, s'arrêter sur chaque station, chaque étape où les arrêts qui ont fait long et court, que le peuple hébreu a fait pendant sa marche dans le désert. On va regarder en même temps les chiffres publics. J'aime bien ça. Ainsi que le nom de certains personnages, aussi des villes et des lieux où ils campaient. Puis je vais commencer l'étude avec une entrée en matière. Donc avec des informations qui sont pertinentes aux études à venir. Pour nous préparer au sujet principal, que l'on puisse en faire une idée d'avance. Pasteur Lee nous dit souvent de visualiser ce qui nous est dit, puis je vais vous demander de faire de même ce soir. Surtout que l'on parle d'environ 1,5 million de personnes. Et on va voir que Dieu ne laisse rien au hasard. J'avais déjà vu comme moi, soit à la télé, ou en participant à différents événements. Des foules comme 25, 50 ou 100 000 personnes. Puis on trouve ça énorme. Mais ici, là, il faut multiplier par 15 le chiffre 100 000. Et même, on n'est pas généreux quand on dit ça. Parce qu'on sait que c'est beaucoup plus que ça. Et ça, faut dire que c'est sans compter leurs butins et leurs animaux. Je me suis posé quelques questions et la première est, qui a permis que le peuple quitte l'Égypte? On a la réponse de Dieu, bien sûr, dans Exode 3:1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Au verset 6, Dieu lui dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » On vivait la même chose dans le monde auparavant. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, Bob, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple d'Égypte, des enfants d'Israël. Avez-vous remarqué au verset 8 que Dieu dit qu'il est descendu pour délivrer son peuple de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Ça rejoint les versets de Romains 3, 10 à 12 qui nous disent « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'en est aucun. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Fait que si Dieu ne vient pas vers eux ou vers nous, on reste sans intelligence. Donc, Dieu est descendu pour aider le peuple hébreu et les délivrer de la main de leurs oppresseurs, les Égyptiens. Parce qu'ils ont été choisis pour être le peuple de Dieu. Parce que Dieu les aime. Et que Dieu est fidèle à ses promesses. Rappelons-nous qu'au début, lorsque Dieu voulait envoyer Moïse en Égypte pour délivrer son peuple, Moïse s'obstinait avec Dieu. Oh, ça nous arrive tous. Il ne voulait pas y aller. Et il se donnait comme prétexte qui n'avaient pas la parole facile. Dans Exode 4, 14, c'est écrit, « Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère, Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour le peuple, pour toi. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. » On voit ici que c'est Dieu qui a tout fait pour son peuple. Moïse et Aaron n'étaient que des outils, des serviteurs pour l'Éternel Dieu. Comme chacun d'entre nous, d'ailleurs. On est bénis. Il y en a un autre qui a été serviteur pour Dieu, puis qui n'a pas fait les choses à moitié. C'est son fils, le Seigneur Jésus. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous? Pour nous, le Seigneur Jésus est descendu sur la terre pour nous délivrer de la main de nos oppresseurs, Satan et ses anges, sa gang. Dans Tite 2,11, on nous dit, « Quand la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient. » On parle de nous ici. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Apocalypse 1,5 nous dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Dans Exode 3,10, Dieu dit à Moïse, il dit, maintenant je t'enverrai auprès de Pharaon, il dit, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Rappelons-nous qu'avant d'être sauvés, Dieu a envoyé un de ses enfants vers nous pour nous témoigner afin d'être guidé vers l'Église où l'homme de Dieu prêche la parole de Dieu.
Amen.
Pour que l'on croie au Seigneur Jésus et qu'il nous fasse grâce de son salut. Donc, pour la même raison, Dieu a envoyé Moïse vers son peuple pour les délivrer de l'esclavage et de se faire un peuple qui lui appartient. Et la seule différence, c'est que c'était à des époques différentes. Simplement. Un jour, pour les nations, le Seigneur Jésus s'est fait connaître à Saul. Et il lui a dit, dans Actes 26, 17, et je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, toujours au Christ qui parle, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, l'apôtre Paul a fait pour nous ce que Moïse a fait pour le peuple d'Hébreu. Une autre question, pourquoi Dieu a choisi le peuple d'Israël? Deutéronome 7,6 répond à cette question, naturellement, c'est écrit, quand tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Il dit, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Qu'est-ce qu'on était aux yeux des gens avant d'être sauvés? Moins que rien. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc, que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu.
Amen.
Rien que. Je vais ouvrir une parenthèse ici sur l'Éternel vous aime. Nous aussi, Dieu nous a aimés, au point de nous sauver. Mais, avons-nous le même amour pour nos proches ou pour les gens non sauvés? C'est une grosse question, ça. C'est une question qui, de tous les jours, en fin de compte. On prie souvent pour que les gens de nos familles ou d'autres gens soient sauvés. Mais est-ce qu'on les aime au point de ne pas se relâcher dans nos prières pour eux? On sait qu'on est oublieux, hein? Puis c'est difficile, hein? Puis de faire comme la... Mais on devra faire comme la veuve qui demandait au juge unique de lui rendre justice de sa partie en fait. À cause de sa persévérance dans sa requête, le juge unique lui a accordé sa requête. Et dans Jacques 5, on nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité.
Amen.
J'ai pris un exemple qu'on a tous connu dans l'Église, puis j'ai jamais oublié la foi, la persévérance de cette sœur-là. Qu'on se rappelle de notre sœur Géraldine.
Amen.
Qui a prié avec persévérance pour le salut de l'âme de son mari, notre frère Richard. Et Dieu a sauvé son mari.
Amen.
Pourquoi? Parce que ça a été fait avec foi et persévérance de la part de notre sœur. C'est la seule façon. Colossiens 4, 2 nous dit de persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Et on sait que notre sœur est la dîme de la fête. Un matin que le Seigneur retournait à la ville, il eut faim, et s'approchant d'un figuier, il ne trouva que des feuilles. Et Jésus dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier s'échappe. On se demande aussi qu'on s'en va avec ça. Mais dans Matthieu 21-20, c'est écrit, les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.
Amen.
On va voir dans la prochaine étude à quel point le peuple hébreu a manqué de foi envers l'éternel Dieu.
Amen.
Mais on va aussi voir que nous aussi, nous manquons de foi.
Amen.
On est de la même nature qu'eux.
Amen.
Mettons Dieu à l'épreuve, puis on va découvrir qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu.
Amen.
Donc, l'Éternel Dieu a choisi Israël parce qu'il était un peuple saint et parce que l'Éternel les aimait. Pour nous, Dieu a manifesté son amour et a envoyé son Fils nous libérer des chaînes du péché. Et le résultat est que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et co-héritiers de Christ, il ne faut pas oublier ça. C'est pour cela que nous persévérons et demeurons dans l'Église de Christ. Et que nous gardons notre espérance. Je referme la parenthèse. Je poursuis avec une autre question. Qui a permis que l'on sache ces choses-là? Nombre 33.2 nous dit, Moïse écrivit leur mère de station en station d'après l'ordre de l'Éternel, ce qui nous fait dire que toute la parole de Dieu a été ainsi écrite, toujours dictée à l'homme par Dieu lui-même ou par son esprit. Et pourquoi Dieu a fait écrire sa parole? Deutéronome 4.10 nous dit, souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. Et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Il y a un dicton qui dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et on sait que c'est tellement vrai. Imaginez si on n'avait pas la parole de Dieu écrite. Je crois qu'il n'y aurait pas personne d'assis ici ce soir. Pourquoi? Mais tout simplement parce que Romains 10, 17 nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et j'ajoute dans 2 Timothée 3, 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, et pour instruire tant la justice de Dieu. Mm-hmm. Donc, c'est une grande bénédiction que Dieu nous a laissé sa parole écrite dans un livre. Dieu, il ne prend pas de chance avec l'homme. Donc, ceux qui ont été sous la loi ont eu l'Ancien Testament comme référence. Et ceux qui ont été sous la grâce, mais ils ont eu le Nouveau Testament comme référence. Puis nous, on est gâtés, on a eu les deux, l'Ancien et le Nouveau. Donc, l'homme n'aura pas d'excuses d'aucune génération. Tous vont en avoir entendu parler, puisque la Bible est le livre qui est traduit dans le plus grand nombre de langues au monde. Si Dieu avait seulement parlé à des hommes, et que ceux-ci nous auraient transmis sa parole de vive voix, je ne crois pas qu'on aurait la version intégrale de la parole de Dieu pour votre vie. Je regrette, là, mais je ne crois pas. On ne regrette pas pendant. On connaît tous le jeu du téléphone arabe. C'est une phrase concernant une situation quelconque, puis au bout de quelques répétitions de cette phrase, c'est devenu une histoire qui ne tient plus la route. Ça ne se tient plus debout. L'homme aime ajouter, c'est légitime, on est comme ça. L'homme aime ajouter sa version à toute chose. Et les fameux, je pense que. On est fort là-dessus. Pareil, ça vous en veut. Mais, savez-vous qui a inventé le téléphone arabe? Non, c'est pas moi. Rappelons-nous lorsqu'Adam et Ève étaient dans le jardin au commencement. Ils avaient juste entendu la parole de Dieu. Et lorsque Satan s'est présenté, il leur a dit dans Genèse 3:1, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'étoufferez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et voilà, là l'inventeur. Le jeu vient d'être inventé. Satan a changé la parole de Dieu, parce que 12 versets auparavant, soit dans Genèse 2:17, c'est écrit, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » C'est simple de ça. Donc, c'est pour ça que Dieu a voulu que sa parole soit écrite, afin qu'elle demeure intègre, et démontrer que dans le passé, dans le présent et dans le futur, que ce qu'il a écrit d'avance s'est accompli dans le passé, qu'elle s'accomplit aujourd'hui dans le présent et qu'elle s'accomplira dans le futur. Et ce futur-là, c'est un beau futur pour nous autres. C'est aussi pour cela que Dieu nous a donné son esprit de consolateur, afin que son esprit nous enseigne toutes choses et il nous fasse réagir à sa parole et qu'on l'applique dans nos vies à tous les jours. Afin de vivre par sa parole. Oui. OK, on commence avec le premier thème de l'étude. Je ne pensais pas me rendre là, mais on est rendu, mais je vais continuer. Le premier thème, c'est la Pâque de l'Éternel. Ça fait curieux, c'est la Pâque sans lui. Ça va être un adon. Je ne peux pas parler de la sortie du peuple hébreu de l'Égypte, donc de leur délivrance de l'esclavage aux mains des Égyptiens, sans parler de la Pâque. C'est impossible. Premièrement, la définition du mot Pâque pour Israël veut dire passer par-dessus. Puis le sens de ce mot, la Pâque, vient rappeler aux Juifs les 10 plaies qui ont été infligées aux Égyptiens, et spécifiquement celle où Dieu tua les premiers-nés égyptiens, mais qu'il passa par-dessus leur maison. Les maisons que le sang d'un agneau sans défaut avait été appliqué sur les poteaux et le linteau de la porte, donc il les préserva. Deuxièmement, la Pâque commémore aussi la sortie du peuple hébreu d'Égypte, donc leur libération par l'Éternel Dieu, parce que d'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas se libérer. C'était impossible. Ils étaient sous l'esclavage, pris dans un carcan. Ça m'est revenu, ça, je me souviens, que Pastoré me l'avait dit comme ça, puis j'avais aimé ça. Il était pris dans un carcan, donc il ne pouvait pas affirmer leur identité comme peuple. Puis troisièmement, la Pâque leur rappelle l'avènement du peuple juif. Un avènement, mais c'est l'établissement ou l'arrivée d'une chose d'une grande importance. Pour eux, ça a été les lois, les commandements de Dieu, la Torah, qui contient les cinq premiers livres de la parole de Dieu, et qui est aussi appelé le Pentateuque. C'est pas aussi un Pentateuque, c'est le Pentateuque. Alors, on peut s'imaginer l'importance de la Pâque pour le peuple juif. Il devenait libre, il devenait le peuple choisi de l'Éternel Dieu, et Dieu a démontré son amour envers eux, et accompli la promesse qu'il a annoncée des années auparavant. Si je compare notre délivrance à notre salut, Dieu a fait la même chose pour nous. On était dans le monde, le Seigneur nous a guidés à l'Église par la foi, puis par le sang de Christ, sa mort et sa résurrection, on a été sauvés. Oui. Libérés de l'esclavage du monde, puisque le monde est sous la puissance du malin, donc de Satan. Pour nous, notre salut, il commémore notre sortie du monde comme enfant de Dieu, par le sang de Christ, sa mort et sa résurrection, parce qu'on pouvait être sauvés par soi-même. Oui. On était, nous aussi, pris dans un carcan, et on ne pouvait pas s'affirmer comme enfant de Dieu. La parole nous dit que Christ est notre Père. Le Seigneur était sans défaut, comme l'agneau offert par Israël avant leur sortie d'Égypte. Et 1 Corinthiens 5, 7 nous dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour le salut de nos âmes. Dieu. Je peux dire, comme j'ai dit pour le peuple de Dieu tantôt, imaginons les forfaits de notre salut, ayant été choisi par le Seigneur pour être 16 enfants. Donc, on peut rendre gloire à Dieu et le remercier tous les jours de notre vie. Il ne se tente pas. C'est ça une action de grâce. Remercier Dieu pour tout. Je vais arrêter le texte ici pour ce soir et prier pour la prochaine étude. Dieu vous bénisse et merci pour vos prières. Prions les uns pour les autres.